Bonjour à tous et bienvenue dans cette 7e édition du Forumcast, le podcast de forum.com. Je suis l'indomptable Adiboy et je serai une fois de plus votre hôte pour cette petite session, accompagné de mes deux collègues, l'inéluctable Metal Neo.
Bonjour.
Et l'impitoyable Travis.
Coucou.
Alors, au programme de cette 7e épisode, nos actualités, comme d'habitude, ce qu'on a pu voir, écouter, entendre, découvrir au cours de ces deux dernières semaines. Puis, le gros morceau de l'épisode, nous allons parler des dernières séries que nous avons découvertes, notamment sur Netflix, avec 13 Reasons Why et Rick et Morty. Eh bien, on va commencer de suite avec les actualités de Metal Neo.
Oh, c'est moi qui commence. Mon actualité, moi, c'est le retour de la série Into the Badlands pour une saison 2. Très agréable surprise pour ma part. Pour la saison 1, je reviens en arrière l'année dernière de cette série que j'avais beaucoup appréciée. Je l'attendais pas, je la connaissais pas et je me suis intéressé au concept. Ça avait l'air très intéressant. Dès le départ, c'était une série de, on va dire, arts martiaux, un peu dans un monde particulier.
Un petit peu post-apocalyptique.
Oui,
en fait. Mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé.
Exactement. Dans la première saison, je n'avais pas l'impression que ça se passait forcément dans un futur qui était le nôtre. Mm-hmm. On pouvait plus penser à un monde alternatif qui avait pris peut-être un même chemin que le nôtre. Mais il n'y avait aucun signe particulier. Ça se passait dans un univers de plantation, donc un peu comme les années des plantations. Avec les esclaves américains et tout ça.
Okay.
Donc un peu un même concept à ce niveau-là et un système de barons qui gèrent ces plantations avec toute une armée de ils appellent ça les Clippers, sont des soldats.
Chaque baron a son empire et
exactement.
Ils cohabitent un petit peu ensemble, ouais. En ayant des accords. Et
la production, soit pour un c'est de la canne à sucre, un autre c'est du charbon, ainsi de suite. Enfin, bon, ils vivent un peu en harmonie, mais toujours avec des clans et tout ça. Et bon, et c'est surtout une série aussi très axée sur les arts martiaux.
Ouais, apparemment. Ouais.
Et donc voilà, ça c'est pour le concept entier de la série. Mais la première saison était vraiment très sympa, j'avais beaucoup apprécié. Assez sobre, c'est-à-dire que tout était mis dans la qualité des combats et de la façon dont c'était filmé. Et c'était filmé à la façon des très bons films chinois.
Ouais.
Tu sens qu'il y a une réalisation derrière, soit très inspirée, soit même menée par des personnes qui ont travaillé sur des grosses productions comme ça, parce que les combats sont géniaux. Et les acteurs déjà sont bons,
mm-hmm.
Aussi bien dans leur acting que dans les arts martiaux.
D'accord, c'est des vrais artistes.
Pour la plupart, ou alors ils ont passé énormément de temps à travailler. Je veux dire, si on doit faire un parallèle avec Iron Fist, Into the Badlands est ce que j'aimerais voir dans Iron Fist.
Ouais, d'accord. Hein,
c'est aussi bien au niveau baston qu'au niveau de la qualité des personnages. Voilà, eux ils passent vraiment du temps à travailler leur chorégraphie, à travailler leurs acteurs. Ils passent 3 à 4 mois, je crois, à travailler,
à s'entraîner.
Alors que je pense que j'avais lu pour Iron Fist, Finn avait passé peut-être 3 semaines d'entraînement ou apprenait les chorégraphies une ou deux heures avant
faire
une scène. Donc ça laisse à désirer quand même à ce niveau-là et c'est vraiment dommage. Mais bon, voilà, cette deuxième saison démarre plutôt bien. Je m'y attendais pas. Je ne m'étais pas renseigné pour dire, je ne savais même pas s'il y aurait une saison 2, ça sentait qu'il y en aurait une, mais je ne le savais pas. Donc quand elle est apparue il y a 4 semaines, parce que maintenant je crois qu'il y a 4 épisodes, j'ai été très surpris, très content de le voir revenir, parce que je m'y attendais plutôt en début d'année et j'avais un peu perdu espoir. Mais voilà, c'est là et je suis bien content, donc voilà, je vous le conseille, si vous aimez bien les séries d'arts martiaux, où c'est plutôt bien fait, et où il y a une histoire assez intéressante, dans un univers... un peu, comment on peut dire, post-apocalyptique.
Il y a une bonne histoire aussi.
Il y a une très bonne histoire.
Il y a une mythologie un petit peu qui se met en place. J'ai vu que la saison 1 qui était très sympa.
Il y a l'air d'avoir un truc qui se met en place. Et là, sans spoiler ou quoi que ce soit, mais cette saison 2 s'élargit. On sort un petit peu de ce qu'on connaît dans la saison 1. Tout ça est toujours en place, mais l'univers s'élargit. Il y a autre chose qui se passe, il y a eu un dénouement qui se fait entre la saison 1 et la saison 2. voilà, c'est moi je suis content, ça se passe bien. Et faut saluer aussi l'arrivée dans la saison 2 de Nick Frost, comparse de
Simon Pegg.
De Simon Pegg.
D'accord.
Qui joue un rôle très intéressant, assez comique.
Oui.
Bah, c'est un peu. Mais ça passe très bien. Là où on pourrait se dire, oh, dommage, c'est le comique de service, bah là, c'est réalisé par quelqu'un qui sait bien faire le comique de service. Et ça passe bien dans une série où il n'y en avait pas jusqu'à présent. Mm. C'est assez léger, il y a des petites pointes par-ci par-là, c'est pas trop, c'est pas. Donc voilà, et c'est une bonne addition au casting. Donc voilà, Travis, je te conseille de reprendre quand tu auras du temps. Et les auditeurs aussi, si ça les intéresse, je le conseille vivement.
Ce sera fait.
Voilà. Ouais, moi, tu me l'as bien vendu.
Voilà, regarde la saison 1 d'abord, ouais. Hein, parce qu'elle vaut vraiment le détour. Et cette saison 2 est plutôt sympa.
Ça passe
aussi
sur AMC, si je dis pas de bêtises. C'est un gage de qualité. C'est pas vraiment ce qu'ils ont l'habitude de faire.
Mm-hmm.
Mais
c'est là où il y a Walking Dead quand même.
C'est vrai, mais là, je voyais pas Preacher trop faire une série d'arts martiaux.
Ouais. Bah, d'ailleurs, ça par contre, faudrait s'enseigner. Je sais pas, mais ça ressemble beaucoup à aussi une production comics. Je sais pas si Into the Balance est un comics ou pas. Je veux pas m'avancer là-dessus, mais ça a le look et le feel. Rien que l'intro de départ aussi, ça fait très. Alors, faudrait vérifier si c'est tiré d'un bouquin, tiré d'un comics, ou si c'est vraiment une œuvre originale.
Un scénario original.
Mais ça sent le comics un petit peu quand même. Ça sent quelque chose qui a vécu ou pourrait vivre en comics.
D'accord. Ok. Bah, voilà. Donc, ouais, ça a l'air bien sympa. Combien d'épisodes pour la première saison ?
Ces premières saisons, ça va être entre 8 et 10, hein, je pense.
Oui, d'accord. Pareil pour la seconde ?
Ouais, j'imagine.
Ok.
6 ouais. Pour la première.
6, ouais, c'était même moins, c'est vrai.
6, encore moins. Ouais,
donc j'imagine que ça va être 10, là, parce qu'on est au quatrième et je sens pas la fin arriver encore, donc.
Ben oui. Je vais me hâter.
Voilà, quand vous l'aurez vu, Travis, on en a déjà parlé, mais. On en parlera à toi, à D-Boy, avec ouais. Toi. Je veux bien avoir ton avis sur un personnage en particulier qui est le baron principal. Queen, il s'appelle, il me semble. Je crois que c'est ça. Tu me donneras ton avis parce que je trouve que ce personnage est super intéressant.
D'accord.
Moi, j'aime bien The Widow.
The Widow est pas mal aussi.
La
ouais,
veuve.
C'est vrai. La veuve, ouais. Elle est sympa, mais elle est sympa que parce qu'elle est mise en opposition avec cet autre personnage, Queen. C'est vraiment le méchant de base. Hein.
Ouais.
C'est quelqu'un à ne
cruel,
pas aimer, mais... Je l'adore.
Mais qui est intéressant.
Il a un truc, il a une diction, une façon de parler, un accent. Il est à la fois machiavélique et charismatique. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce personnage.
J'ai jeté un coup d'œil sur la page Wikipédia, là, rapidement. C'est Martin Kshokash qui l'incarne. C'est,
ouais.
C'est un acteur que j'aime
ah
bien.
Bah alors, si tu le connais. Hein.
Ouais.
Je le connaissais pas, moi.
Ouais, il est habitué des seconds rôles. Il a incarné notamment Celeborn dans... Le Seigneur Zanon, c'est celui, l'elfe qui reste avec Galadriel, par exemple.
Ouais.
Et il incarne Yorgi dans Triple X avec Vin Diesel.
Triple X, j'ai pas vu, mais là, Seigneur Zanon, tu me poses une colle parce que.
Ah, tu le vois pas, tu le vois vraiment pas longtemps. Hein. Sur les trois films, si tu le vois trois minutes, c'est.
Il faudrait que je revoie.
C'est, voilà, c'est le bout du monde. Et bah, du coup, si on passait à mon actu.
Volontiers.
Alors, très chers auditeurs, je me suis infligé le visionnage de Ghost in the Shell.
Oh, alors là, c'est pas beau ce que tu dis. Parce que tu nous dises maintenant ton avis, ok, pas de problème, mais tu étais hyper chaud pour aller le voir.
Oui,
donc tu peux pas dire que tu t'es infligé.
Non,
c'est vrai. Hyper chaud, hein,
c'est vrai.
Travis.
Oui,
je crois qu'on
chaud,
peut même ressortir le podcast où sur les trois films de super-héroïnes,
oui.
C'était celui-là que tu voulais voir. Hein.
Oui.
Et on va même se demander, du coup, tu avais des a priori avant de le voir ou pas du tout ?
En fait, je suis un énorme fan du film d'animation original de Ghost in the Shell, donc qui est sorti en 1995 et qui est inspiré lui-même du manga papier sorti un poil plus tôt. Et oui, c'est un de mes films cultes.
Ouais, il est très bien. J'aime beaucoup.
C'est un univers très bien décrit, du cyberpunk. Il y a des musiques qui sont géniales. Les musiques de Kenji Kawai sont parfaites. Les personnages se sont pas toujours super bien développés, mais c'est pas grave parce qu'ils ont tous un caractère, une façon de parler, de se déplacer, enfin qui les rend ultra charismatiques et du coup ça fonctionne bien. Et du coup, le film de 2017 avec Scarlett Johansson, c'est des Américains qui reprennent un film japonais.
Ouais.
qui du coup l'adapte à la sauce américaine pour que ça plaise aux Américains et d'une certaine façon au marché mondial, parce qu'il faut que le film original était assez lent, il était très très contemplatif en fait. Je me souviens de passages entiers où on a juste limite une image fixe ou un scrolling très lent entre deux immeubles où on voit un avion de ligne qui passe au-dessus, un avion de ligne futuriste. Et voilà, c'est quelque chose de lent, c'est un film lent, un film philosophique aussi.
Très philosophique.
Très très philosophique.
Métaphysique et philosophique.
Et ce sont des aspects qui ont été complètement scrappés du film avec Scarlett Johansson, qui finalement...
Ça se résume à un film d'action et puis c'est tout.
Se résume à un film d'action, même si les scènes d'action n'occupent pas l'intégralité, même pas la moitié finalement du long métrage, mais qui surtout se concentre sur le personnage du major, donc incarné par Scarlett Johansson. Mmh. Alors qu'à la base, dans le film, c'est dans le film d'animation de 1995, c'est le personnage principal, mais ce n'est pas autour de lui que tourne toute l'histoire. C'est une enquête cyberpolicière. Puisque pour remettre les choses dans le contexte pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas l'univers de Ghost in the Shell, il se déroule dans un futur relativement proche où l'humanité a développé la technologie cybernétique au point que les êtres humains peuvent être augmentés un petit peu à la façon d'un jeu comme Deus Ex, c'est-à-dire qu'on peut se rajouter des puces dans les yeux, dans le cerveau pour
penser, des membres aussi.
Pour penser plus rapidement, ou même carrément se faire greffer des membres artificiels comme des yeux, des bras, des jambes, voilà. Et on y suit les aventures donc du major Kusanagi, qui dans le film est incarné par Scarlett Johansson, qui est membre d'une équipe d'élite de la police anti-crime cybernétique, la section 9, et qui est dans le film d'animation original et confronté à un cyberterroriste que l'on appelle le marionnettiste. Ça c'est, voilà, l'univers de base est posé.
Non, je dis ok, ouais, je ne connaissais pas pour le coup le manga. Tout, ni le film d'animation, ni le manga, Et bon, après, je pense que c'est peut-être un film qui est plus adapté à ceux qui n'ont jamais vu le film d'animation ou qui n'ont jamais lu le manga.
C'est peut-être le cas, mais même à ce niveau-là, je trouve qu'il est mal vendu parce que je suis allé le voir avec ma copine qui s'est contentée de regarder les bandes-annonces. Et les bandes-annonces laissent penser qu'il va y avoir beaucoup d'action, alors que comme je l'ai dit, finalement, il n'y en a pas tant que ça.
D'accord.
Tout le côté philosophique a été scrappé, mais ils ont quand même voulu mettre une certaine réflexion sur l'origine du personnage de Scarlett Johansson, mais qui au final est ridicule, ne passe pas du tout. Et donc voilà, pour moi c'est une déception, qu'on soit fan du film original ou pas, ou qu'on l'ait jamais vu. Alors, pour moi c'est quand même une grosse déception. Il y a des choses qui valent le coup. Les décors sont plutôt bien faits.
Ça avait l'air chouette.
L'univers est bien rendu, c'est-à-dire à aucun moment dans le film il est précisé où est-ce qu'on se trouve, mais on peut imaginer que c'est une espèce de Néo-Tokyo comme on a pu en voir dans plusieurs fois dans des films et des univers années, cyberpunk. Ouais. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des grands buildings qui projettent des publicités et des films en hologramme 3D. Donc bon, ça c'est quelque chose de classique, mais qui rend bien dans le film. Je trouvais ça plutôt sympa. Les personnages secondaires du film, il y en a au moins deux qui sont très réussis.
Takeshi Kitano, dis-moi.
Takeshi Kitano qui est absolument génial.
Parfait.
Alors, il faut savoir, donc Takeshi Kitano est un acteur japonais qui tout le long du film parle japonais. Il fait même pas l'effort de parler anglais, c'est-à-dire qu'il parle japonais tout le temps, le comprend.
Même dans tous ses films,
lui répond en anglais. Ouais. Et ils se comprennent tous.
Comme dans Johnny Mnemonic, hein, c'était pareil aussi. Il avait un rôle. Il parlait donc encore un univers futuriste de Tokyo.
Oui, oui,
pareil, il parlait japonais et tout le monde le comprenait. Quoi.
Et en fait, bon, il incarne Aramaki, le chef de la section 9. Et en fait, il en a un peu rien à foutre. Quoi. Il est là, il a toujours sa gueule de yakuza. Nippon, quoi.
Je l'adore.
Il est très très bon.
J'adore ses films.
Donc voilà, Takeshi Kitano, c'est un plus non négligeable du film. Et aussi le collègue donc, de Scarlett Johansson qui s'appelle Batu, qui est incarné par Pilou Asbeck, un acteur dont je n'ai jamais entendu parler, mais qui est vraiment pas mal. Et qui est une espèce de gros bourrin, mais au grand cœur, sensible et tout. Et voilà, c'est contrairement au personnage de Scarlett Johansson qui dévie complètement de l'original. du film d'animation. Celui-ci coche quand même pas mal de cases,
ouais.
Et du coup ça rend vraiment vachement bien, quoi. Okay. Il rend bien son personnage.
Bon, donc ton verdict, c'est
pour moi c'est une déception, ça mérite.
Est-ce que c'est à voir quand même ou pas?
Si vous êtes branché cyberpunk, belles images dans l'ensemble, oui, que vous aimez Scarlett Johansson parce que les trois quarts de ses plans sont fixés sur son postérieur, c'est ça aussi, c'est assez terrible.
Qui est pourtant mécanique, hein.
qui est mécanique dans le film, exact. Oui, non, vous, ouais, c'est à tester, c'est okay. À vous voir. Mais
ouais,
après,
j'ai bien envie de le voir, mais je m'attends pas à grand chose.
Hein. Après, ouais, pour le reste, c'est assez décevant. Voilà.
Ok.
Travis.
Oui.
Une petite actualité.
À piocher de ton sac.
Oui, j'en ai plein. Et en fait, j'ai changé d'avis entre temps. On en avait parlé un petit peu avant. Et je vais changer de plan.
Okay.
Je vais revenir sur Goliath. Goliath.
La
série Amazon dont je vous avais parlé, dont j'avais vu le pilote.
Ouais.
Qui était un petit peu lent à mon goût. Et,
c'est le truc d'avocat, là, c'est
avocat,
ça, avec la petite
avec,
entreprise.
Avec l'acteur dont on avait parlé. Donc,
oui.
Ouais, Billy Bob Thornton.
C'est Billy Bob Thornton.
Merci. Ouais. Exactement. J'ai vu toute la saison. En fait, j'ai bien accroché à partir de l'épisode 2 où il y a deux gros twists qui s'enchaînent. Et je la recommande fortement. C'est une très bonne série façon Damages, on l'avait déjà dit, mais je confirme. Une bonne série d'avocats sans avoir les défauts des séries d'avocats qu'on peut connaître. Il y a un vrai fil rouge, une vraie intrigue, des vrais retournements de situation et des vrais personnages un peu bizarre, voire tordu, un peu
malsain.
Un peu malsain, voilà, ouais, exactement. Ouais. Qui sont borderline un petit peu tous. Et une série à voir, intéressante. J'en ai testé pas mal sur Amazon.
C'est celle qui ressort du lot.
C'est une de celles qui ressort du lot. Il y a aussi Fleabag, dont je parlerai une autre fois, mais
oui.
Qui est un petit peu particulière. Mais voilà, Goliath, je pense que c'est plus grand public au final que les autres.
D'accord.
Voilà.
Ok, parfait.
Donc à recommander. Et,
recommandation
et,
rapide, voilà. Mais là aussi qui donne envie. Il y a un gros casting apparemment derrière.
C'est ça, on avait dit, il y a Molly Parker.
Billy Bob Thornton, William Hurt, Olivia Thirlby,
William
Bello.
Hurt, c'est lui, quand c'est un des rôles principaux, c'est lui qui va s'opposer vraiment à
Billy
Bob Thornton.
Bob
c'est en fait l'histoire de base, sans spoiler, c'est que c'est deux anciens grands avocats qui ont fait une firme. Et qui maintenant, Billy Bob Thornton, il est parti, il a quitté cette firme, et les deux se retrouvent pour une affaire.
Pour une, ouais.
Sauf que William Hurt, il joue un gars qui a été un petit peu défiguré, qui reste toujours dans une salle noire, qui a un petit clic, et à chaque fois il le fait pour, on ne sait pas trop pourquoi. C'est un personnage vraiment très spécial,
d'accord.
À la hauteur de William Hurt, ce qui n'est
ouais.
pas négligeable, ce qui n'est pas rien. Et tous les personnages sont assez travaillés et intéressants, donc... une bonne série. Pour une série d'avocats, c'est plus une série avec un fil rouge qu'une série d'avocats.
D'accord. Chouette.
Ça donne plus envie que Suits, déjà.
Alors, Suits, c'est pas le même genre, on va dire. C'est une série qui a beaucoup de succès. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien, mais qui m'a l'air un peu plus légère, un peu plus comédie dramatique, avec les avocats qui sont un petit peu des prétextes de ce que j'ai vu, parce que j'ai dû voir que le pilote.
Ouais, pareil. Exactement. Bon, eh bien, du coup, pas mal d'actu. Des recommandations, des non-recommandations aussi. Moi, en tout cas, vous m'avez bien convaincu sur Into the Badlands et donc Goliath, avec cet
Goliath.
Accent anglais irrésistible. Eh bien, du coup, il est temps de passer au gros du sujet. Les deux séries que nous avons donc pu regarder dernièrement sur Netflix. On va commencer par 13 Reasons Why.
Commençons par Rick et Morty.
Ou plutôt, commençons par Rick et Morty. Donc, une série d'animation d'adultes de la chaîne Adult Swim.
C'est ça, Adult Swim.
Adult Swim, co-créée par Dan Harmon, donc l'homme derrière beaucoup de séries, dont Community.
Oui.
Et tu vas m'en donner une autre, peut-être
Volontairement
pas. Ah bon, ben, donc voilà.
Débrouille-toi.
Disons simplement que c'est l'homme qui a créé Community. Donc, gage de qualité pour tout ce qui concerne l'humour et des personnages qui sortent de l'ordinaire.
Oui, c'est un personnage en lui-même, Dan Harmon. Hein. Il a quitté Community pour revenir après, etc.
Voilà.
Il y avait pas mal d'histoires autour de lui et de l'acteur qui joue
Pierce,
qui s'appelle... un acteur très connu.
Chevy Chase. Donc, pour en revenir sur Rick et Morty, c'est une série d'animation qui suit les aventures donc, de Rick, qui est un
savant fou.
C'est un savant fou, alcoolique, oui. Mais un génie quand même, capable de créer tout un tas de machines et d'inventions loufoques et barrées, comme par exemple un portail dimensionnel à la façon du jeu Portal, un petit peu, qui te permet de te téléporter dans d'autres univers. Et il est toujours flanqué, donc, dans ses aventures, de son petit-fils Morty. Qui lui n'est pas du tout un génie, il est plutôt très simple.
L'inverse, hein,
il est voilà.
Gentil.
Il est gentil.
Il est gentil.
Il est brave.
Il est brave. Il est gentil.
Il est brave.
Mais il n'y a pas tout le monde. Il n'y a pas tout le monde là-haut, quoi.
Ouais. Il manque quelques cases des fois.
Et le concept de base, c'est que Rick emmène dans ses aventures Morty et lui fait subir a priori pas mal de choses assez.
On peut dire dans un sens ça ressemble vachement à du retour vers le futur, mais dans un petit concept de base, les aventures d'un vieux et d'un jeune
sous
et
crack ou sous,
ouais exactement c'est
sous
ça,
ecstasy, hein. sous LSD,
rencontre Breaking Bad, rencontre South Park, rencontre tous ces trucs un peu fous.
Exactement, donc je me suis maté la première série qui fait 11 épisodes. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je suis particulièrement friand de ce genre de série d'animation pour adultes où c'est trash, c'est volontairement vraiment bien trash, un peu crade. Il y a de l'humour noir, il y a des personnages over the top. Puis oui voilà,
il y a du non-sens aussi,
des fois c'est débile quoi, mais moi j'ai beaucoup aimé. C'est 11 épisodes de 24 minutes, ça se dévore, mais c'est vrai que il faut réussir à rentrer quand même dans l'univers qui est pas toujours facile,
c'est pas évident.
J'ai vu que le pilote, j'ai pas, pour le coup je suis pas encore rentré dans l'univers. Je resterai peut-être, mais j'ai été un peu rebuté parce que le pilote je l'ai pas trouvé hyper drôle. Les pilotes c'est toujours particulier, c'est toujours un petit peu l'introduction des personnages et de l'univers, mais pour le coup voilà, j'ai trouvé ça m'a pas vraiment fait rire, et j'ai compris l'humour qui allait être dans la série, sauf que là je trouve qu'il ressortait pas assez encore, et c'était un petit peu dégoûtant, enfin un petit peu redondant dans l'aspect crade, ce qui me choque pas forcément, mais j'ai peur que ce soit un petit peu trop Rick qui tape sur Morty non-stop et de façon un petit peu répétitive. Alors je sais pas, j'ai vu que le pilote.
C'est souvent ça quoi. Tout le concept part du fait que Rick sait qu'il est un génie. Enfin tout du moins il se considère vraiment comme un génie, même s'il est très intelligent. Mais il a des réactions complètement loufoques, voire même extrêmement dangereuses pour les membres de sa famille.
Oui.
Mais pour lui il a tout le temps raison, et du coup il y a cette antagonie entre lui et Morty qui du coup lui dit mais tu te rends pas compte de ce que t'es en train de faire, c'est absolument débile. Et Rick se contente simplement de sortir sa flasque, de boire un coup et de dire ta gueule Morty, tu comprends rien de toute façon. Enfin voilà, c'est souvent ça, mais j'ai retrouvé un petit peu l'esprit de Futurama en fait.
Ouais, j'allais le mentionner. Moi j'en suis qu'au deuxième, comme Travis, je suis pas encore complètement convaincu. J'ai trouvé le premier pas hyper drôle, mais ça m'a fait sourire quand même quelques fois. Et comme toi, j'ai eu un peu cette peur de me dire est-ce que ça va pas être que du bashing tout le long, et est-ce que à un moment ou à un autre ça va décoller et être un petit peu plus drôle que ce que ça ne l'est là dans ce premier épisode. Donc je me suis dit regarde un deuxième, ce que j'ai fait, et là j'ai absolument pas du tout ri quoi. Le deuxième
c'est
pas
lequel
du tout.
C'est lequel déjà?
Le deuxième c'est celui où ils font Inception.
Ah oui.
Où ils font les rêves dans les rêves dans les rêves dans les rêves. Pff. Je sais pas. À aucun. J'ai pas trouvé ça nul ou mauvais, mais c'est juste ça m'a jamais fait sourire. À la différence d'un Futurama où vraiment Futurama. Et pourtant je déteste les Simpsons. J'aime pas du tout les Simpsons, mais Futurama j'adore.
Ouais.
Et même si c'est les mêmes gars, j'ai beaucoup aimé le concept de Futurama. J'ai trouvé ça beaucoup plus drôle. J'aimais plus les personnages et l'univers. Et je retrouve ça dans Rick et Morty. Je suis d'accord. Hein, ça a ce côté. Ça a ce côté un peu bizarre et ça peut nous mener n'importe où. Ça a le côté trash et on s'en fout de South Park. Mais voilà, ça me fait pas rire comme South Park ou Futurama. Je sais pas.
Pour être fair play, la série a beaucoup de gens suivent la série et l'apprécient énormément. Ouais. Mais vraiment énormément.
Oui,
ça se voit sur les réseaux sociaux et compagnie. Je pense qu'il faut rentrer dedans et que pour le coup, nous, on n'est pas rentré dedans. Peut-être qu'on n'est pas.
C'est ce que je dis. Je pense pas qu'elle soit mauvaise.
En tout cas, il y a des très bonnes critiques. Et même des très bons avis sur Internet. C'est ça qui m'avait motivé aussi pour regarder.
Oui, moi, c'est même plusieurs personnes de mon entourage aussi dont je value vraiment l'opinion et qui m'ont dit c'est vraiment génial, il faut absolument que tu regardes. Et voilà, peut-être que je continuerai à regarder un petit peu des épisodes de temps en temps, mais peut-être que c'est pas fait pour moi. C'est pas mauvais. Je pense que c'est bien. Ça serait pas, il y aurait pas autant de critiques bonnes si c'était pas bien, mais c'est peut-être pas pour moi. Je sais pas.
Non, mais en parlant de séries qui ne sont pas faites pour certaines personnes, on va enchaîner sur 13 Reasons Why, qui a priori n'est pas une série pour vous deux, messieurs. C'est ce que j'aurais dit. Peut-être que je me trompe.
Non, oui, c'est vrai que, à première vue, cette série qui se définit comme un teen drama...
Elle ne se définit pas comme un teen drama, mais on la perçoit comme ça pour diverses raisons sur lesquelles on reviendra. Je vais faire le pitch très rapidement. C'est centré sur un jeune homme qui s'appelle Clay, qui a une adolescence basique. C'est pas un des beaux gosses du lycée, c'est pas non plus un des rejetés du lycée. Et sauf qu'il est marqué par un drame, par une jeune fille qui s'est suicidée dans son lycée. Alors l'étendue de la relation, il est relativement flou au début, donc on va pas rentrer là-dedans. Mais on va se rendre compte qu'il y avait des choses, etc. Et surtout... il va recevoir des cassettes à l'ancienne, des cassettes audio.
Des cassettes audio.
Où la jeune femme parle, elle raconte les 13 raisons pourquoi elle s'est suicidée. Et chaque raison correspond à une personne.
Ouais.
Et il va apprendre qu'il est sur une des cassettes, qu'il est une des raisons...
qui ont poussé la jeune fille à se suicider.
C'est ça. Ouais. On va pas en dire plus, mais ça, c'est le pitch de base. Déjà, je trouve que c'est un pitch assez intéressant. Plutôt bien trouvé, qui donne envie de savoir pourquoi il est sur les cassettes, qu'est-ce qui a motivé le suicide de cette jeune femme. Donc il y aura pas mal de flashbacks, la série c'est à moitié flashback et à moitié les conséquences de son acte. C'est plutôt bien écrit, il y a une bonne intrigue je trouve, c'est assez classique, ça reste réaliste. La volonté est d'être réaliste, hein, de toucher les gens qui regardent la série. Mais après je la conseillerais pas du tout aux enfants voire aux adolescents.
Ah oui, non,
je reviendrai là-dessus plus tard. Mais il y a des choses un peu violentes, pas forcément au sens propre, mais plutôt au sens figuré. On ne va pas en dire plus. D'ailleurs, il y a des avertissements au début de certains épisodes sur Netflix.
D'accord.
Et j'ai adoré cette série. Mais vraiment adoré cette série. C'est, je pense, il faudra que je le dise peut-être à froid. Là, j'ai vu le dernier épisode hier. J'étais très mal hier, je vous le dis. J'ai pas honte de le dire, je m'en fous. Et j'ai adoré, je trouve que l'actrice principale, qui est une inconnue complète, elle avait quasiment rien fait à part un court-métrage avant, c'est une Australienne, qui n'a pas l'accent donc, dans la série. Elle est excellente, au début de la série, elle est super fraîche, joyeuse, radieuse. Donc on a vraiment envie de savoir pourquoi, enfin moi j'avais vraiment envie de savoir pourquoi elle était arrivée.
Comment elle en est arrivée.
Le déclin,
qu'est-ce
qui s'est passé.
Avait fait tout ça. L'acteur principal... il ne fait pas forcément l'unanimité, mais je le trouve personnellement très bien. J'ai bien apprécié. Il s'appelle Dylan Minnette, donc il a un nom de famille un peu ridicule en français, mais bon, on ne lui en veut pas.
Peut-être que là-bas, ça marche pour lui. Bonjour, je m'appelle Minnette.
Il c'est pas un beau gosse, hein, je trouve.
Non,
il est standard.
Il a une bonne tête d'Américain de certaines régions, je ne sais pas lesquelles.
Il a fait plusieurs trucs avant. Moi, je l'avais déjà vu dans d'autres, dans des films.
Lui, il est plus connu pour le
coup. Il est un peu le plus connu, parce que sa tête me disait quelque chose.
Ouais.
Donc, je trouve que le casting est très bon. J'ai appris que l'actrice avait été castée sur Skype et qu'il ne l'avait jamais vue avant le premier jour de tournage, ce qui est assez gonflé. Et c'est un des éléments que, si je l'avais su avant, j'aurais peut-être fait la croix sur cette série. Ça et le fait que ce soit produit par...
Selena Gomez.
Ouais. Selena Gomez, ça fait un
peu
peur. Et
sa mère.
Et sa mère, c'est vrai.
Et sa mère. Parce qu'à la base, c'était elle qui était censée incarner le rôle de,
ouais,
de la suicidée.
Très bon choix
de la suicidée.
Très bon choix de ne pas l'avoir fait, même si j'ai rien contre elle. Hein, mais l'actrice est top, donc voilà. Et c'est adapté d'un roman. Donc c'est pour ça aussi que je pense qu'on a une vraie intrigue et le traitement des personnages qui est un petit peu... qui n'est pas ce qu'on retrouve forcément dans les teen dramas basiques. Riverdale, pour ne pas le citer, qui est un guilty pleasure classique. Enfin, vraiment, maximum. Quoi. Et je rajouterai juste une chose, après je vous laisse la parole. La musique que je vais prendre la bande originale dès qu'elle sort. C'est plein de chansons des années 80-90, très bien utilisées, je trouve. C'est pas des chansons que certaines je les connaissais, mais je les aimais pas forcément. Et là, je trouve qu'elles collent très bien à l'intrigue. Donc, je vous laisse me dire si vous avez plus ou moins partagé mon avis, mais je sais que vous n'avez pas encore vu toute la série. Et je pense que c'est une série où il faut s'attacher au personnage et ça prend un petit peu de temps. Le pilote, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. C'est au fur et à mesure, ça va un peu crescendo et c'est un petit peu ça qui m'a conquis.
Moi, écoute, j'ai commencé la série en fait
au
quatrième épisode, je crois. C'est ma copine qui regardait ça. Et en fait, j'ai accroché au début sans plus, tu vois, les 10 premières minutes, j'étais là, ouais, ça, c'est pas mal parce qu'elle m'a fait le pitch rapidement, quoi, la jeune fille qui se suicide, les cassettes. Et puis après, en fait, il y a toute cette galerie de personnages qui est à la fois ils sont tous très archétypaux, quoi.
Probablement représentatifs d'une certaine population américaine.
Voilà, d'une certaine frange des
c'est un peu les clichés, mais c'est pas
ils sont pas exacerbés, en fait.
C'est
des clichés naturels.
C'est des clichés avec plusieurs couches, plusieurs... Ouais. Voilà.
C'est des clichés nécessaires, mais qui sont bien utilisés, quoi. Et ils ont chacun un ou plusieurs éléments en plus qui les rendent vraiment très intéressants. Et du coup, ça m'a donné envie de commencer depuis le début. Et c'est pour ça qu'hier, enfin ce matin, j'ai vu le premier épisode. Et j'ai accroché. J'ai accroché de suite. C'est vrai que l'actrice principale, je l'ai vue que dans deux épisodes. Mais on sent déjà qu'il y a une petite évolution entre le premier et le quatrième épisode, du coup. Ça a l'air très bien, cette histoire émouvant. Enfin, c'est tout, quoi. C'est émouvant, c'est parfois drôle. Apparemment, c'est souvent triste.
C'est un petit peu un mélange. Tu l'as très bien dit, c'est très émouvant. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être attaché aux personnages, notamment aux deux principaux. Et l'aspect comique revient régulièrement. Effectivement, c'est pas le principal non plus. C'est une série
un peu de légèreté de temps en temps.
Voilà, il y en a un petit peu. Notamment au début, après forcément le crescendo dont je parlais tout à l'heure fait que c'est un peu moins propice à l'humour. Mais je pense qu'il faut, voilà, il faut un petit peu de temps pour s'y faire et c'est un bon mélange de genres et avec des belles thématiques derrière, assez dures, assez dépressives, c'est ça que je voulais dire à la base. C'est pour ça que je ne les conseillerais vraiment pas à des adolescents, même si c'est un petit peu que ça vise. Pour le coup, certains épisodes, à la fin, j'étais un peu vidé, moi, mais bon. Enfin, j'ai pris à cœur le truc, mais je trouve que c'était un peu...
Ouais, c'est normal, hein.
Je ne le ferais pas voir à un enfant de 10, 12, voire 14 ans, quoi.
Non, c'est pas la...
Vers la fin, il y a des scènes très, très dures.
Psychologiquement, quoi, c'est...
Psychologiquement. Ouais. Voilà, j'en dis pas plus, mais il y a des scènes, faut vraiment pas les montrer aux enfants. Il y a des avertissements qui sont pas là pour rien.
D'accord.
C'est la première fois que je vois des avertissements sur Netflix.
Ouais, c'est bizarre, c'est vrai.
Ouais, quand même, ouais. Bah écoute, je partage ton avis. Ouais, c'est vrai que je me serais pas considéré comme le genre de personne à être attiré par ce genre de série, par ces thèmes-là. Parce que le trip, teen drama qui se passe dans un lycée où t'as ces adolescents de 16 ans qui peuvent se payer une Ford Mustang vintage magnifique et tout, la plupart du temps, ça m'exaspère un peu, quoi.
Là, pour le coup, le personnage qui a la Ford Mustang, c'est un super personnage.
Ouais, il a ce côté un petit peu,
Fonzie.
Fonzie, mais...
Dans la coiffure.
Dans la coiffure, le blouson de cuir,
la voiture, et il a ce côté aussi un peu... Overseer, enfin le mec un peu fantastique, tu te dis
il a déjà toutes les clés en main,
il a déjà
tu sais pas
toutes
pourquoi.
Les clés en main, il y a...
on va pas trop en dire, mais effectivement c'est un personnage qui est très intéressant. Et je vais juste citer un autre personnage que t'as peut-être pas bien vu, qui s'appelle Jeff, qu'on voit très peu, mais j'ai trouvé qu'il était super attachant très rapidement.
Jeff c'est
un sportif, mais il traîne pas avec le groupe en question. Il va aider Clay sur sa vie sociale et notamment sur sa relation amoureuse, etc. Et on le voit très peu, très ponctuellement. Il a un rôle pas négligeable, donc très intéressant. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant d'avoir un personnage si peu visible qui devient si vite attachant.
D'accord. Ben écoute, j'ai hâte de continuer. Voilà, clairement.
Ok.
Ouais. Et la musique est très cool. Dans le premier épisode, il passe du Joy Division oui. et c'est sympa. Parce que du coup, t'as cette opposition, ça se passe dans les années 2010 et t'as de la musique rétro des années 80, 90. Donc,
Et qui colle bien.
Et qui colle très bien.
Même au niveau des paroles, c'est souvent bien trouvé, etc.
Non, ça colle très bien. Donc,
pour moi, Metal Neo, tu as testé aussi ?
Ouais, j'ai regardé le premier épisode. Et comme vous, séduit dès le premier épisode, j'adhère au concept, ça me plaît. Il y a cette intrigue qui te fait prendre au truc de suite. Comme tu disais, les personnages sont tellement bien joués qu'ils deviennent très vite attachants. Hein, ce duo donc de la fille et je ne me rappelle plus leur prénom dans la série.
Anna et Clé.
Anna et Clé, voilà. Ils sont très vite attachants parce que le jeu entre eux ou leur façon de communiquer avec leur entourage.
L'entourage, il y a Kate Walsh qu'il faut mentionner, qui joue la mère de Anna, qui se suicide.
Oui. Ouais.
Elle est excellente, elle a joué dans Grey's Anatomy, Private Practice. On voyait déjà qu'elle était très bien, mais là, elle a vraiment un rôle à sa hauteur.
À sa portée,
dans Grey's Anatomy, c'est l'ex-femme
de... C'est Addison, c'est l'ex-femme
de Derek.
De Derek,
ouais, c'est ça.
Qui après a son propre spin-off d'ailleurs.
Oui.
Elle a joué aussi un petit rôle dans Fargo, la première saison.
Pas vu.
La femme du.
J'ai pas fini Fargo. Okay. J'avais à peine.
Donc là, pour le coup, vraiment, très belle performance. Super.
J'aime bien le. Ouais, pardon.
Non, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais juste pour finir, voilà, j'ai vraiment été séduit par ce premier épisode. J'ai envie de continuer. Je vais juste chipoter, mais c'est rien là. C'est juste moi. C'est pas un point négatif ou quoi que ce soit, mais je trouve ça dommage quand même de forcer autant sur cet emploi des années 80 et des Walkman. Je trouve que c'est plus pour nous cibler, nous, qui avons aimé les années 80, plutôt que pour... je trouve pas que ça serve totalement à l'histoire d'avoir été obligé d'utiliser ces médiums-là. Du moins dans le premier épisode, je le ressens pas encore. Je trouve plus que c'est une utilisation pour cibler la population.
Un appât. C'est un appât, ouais.
Là où Stranger Things, par exemple, a pu le faire parce que c'est basé dans les années 80, là, je trouve que... c'est pas un point négatif qui vient tâcher la série. C'est juste moi où je me dis, ils ont essayé de faire ça parce qu'ils se doutent probablement que c'est une population de la trentaine qui va le regarder.
Je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est le romancier qui avait ce petit côté un petit peu...
Mais bon,
parce que c'est pas complètement justifié. Il y a une petite justification via un personnage que mentionné tout à l'heure. Mais effectivement, c'est pas complètement justifié. Je pense pas que ce soit vraiment un appât pour le coup.
Franchement, pour le moment, je l'ai senti comme ça, parce que après, voilà, comme tu dis, c'est peut-être aussi l'influence de l'écrivain, et donc l'écrivain a mis ça là-dedans, et que c'est pas forcément un truc pour appâter ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça m'a juste légèrement choqué, dans le sens où je trouve que il n'y a pas d'explication réelle. Ça sert pas vraiment à cette population de jeunes qui auraient plus l'habitude, même si il y a beaucoup de jeunes qui aiment les trucs rétro ou quoi, mais. Je trouve que c'est un peu trop forcé qu'elle-même utilise des cassettes, que l'autre qui a la Ford Mustang, qu'il utilise lui aussi des cassettes. C'est un peu trop... C'est légèrement pas cohérent. Mais après, ça marche. Ça marche. Ouais. Et voilà, c'est juste moi qui chipote un petit peu. Ça n'a en rien diminué mon appréciation de ce premier épisode ou de la série. J'ai tout envie de continuer et de savoir ce qui se passe parce que l'intrigue, par contre, elle, est extrêmement bien menée, extrêmement bien ficelée. Et... ça donne vraiment envie, même si, comme on pouvait dire, ça fait un petit movie. Au-delà de ça, encore une fois, merci à Netflix de produire des choses toujours différentes, toujours intéressantes. Je vais pas dire qu'il y a que sur le marché, mais
Amazon essaie.
Il y en a d'autres qui essayent un petit peu, d'autres petites chaînes. Mais voilà, c'est grâce à eux quand même qu'on a aujourd'hui du très bon contenu, des très bonnes séries à regarder plutôt que la soupe.
Qu'on peut nous servir habituellement.
Donc, très appréciable.
Ouais. Grosse recommandation en tout cas de ma part.
Certifié.
Je suis content que ça vous ait plu. Oui, je pense que le pilote, c'est pas le plus.
Ça m'a plu dès le pilote. Franchement, si c'est mieux après, tant mieux. Mais
voilà. Si vous avez aimé Angela 15 ans, un petit peu, Véronica Mars, tout ça, il y a des petites choses qui sont un petit peu inspirées de ces séries-là, notamment.
Ouais, définitivement. Donc,
voilà. Moi, j'ai adoré. C'est probablement la série que j'ai préférée de Netflix, devant, juste devant VOA. Ouais. Juste devant. Je pense que vous préférez VOA, mais bon.
Bah, à la limite, je préfère plutôt même Stranger Things. Mais
Moi, je mettrais Stranger Things en 3. Mais bon, c'est purement les trois bonnes séries.
C'est c'est, de toute façon, les trois sont à recommander à tout le monde. Hein. Mais, ouais.
Ok. Du coup, dernière partie.
Oui.
Un petit débat.
Ouais.
Je vais le lancer, tiens, pour une fois. Je vais lancer le débat, parce que c'est moi qui apporte le débat. La news, je crois. Vas-y. Mais voilà, ça fait pas partie de nos actualités, mais on s'est dit qu'on allait le garder peut-être pour la fin, parce que ça pourrait un petit peu plus soulever débat. Et c'est à l'instant rien qu'une actualité, c'est une news. Il y a pas d'infos supplémentaires que le simple fait que la Warner Bros. A, on va dire, officialisé et commandé un reboot Matrix. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça, pour le moment, personne ne le sait. Tout ce qu'on sait, c'est qui est à l'écriture, ou du moins qui est impliqué à la tête du projet. Il n'y a rien d'autre de vraiment sûr. Apparemment, c'est un écrivain, je ne pourrais pas dire son nom, mais celui qui est en charge du scénar, c'est plutôt pas... Enfin, c'est pas un rigolo. Hein. Normalement, c'est quelqu'un de plutôt bien. Il faudrait que je retrouve, on pourra vous remonter l'information. Et l'une des seules informations qu'il a pu donner jusqu'à présent... c'est que s'il fallait que Neo, donc personnage principal de la saga Matrix, fasse partie du film, il a lui-même dit qu'il n'y aurait personne d'autre que Keanu Reeves pour jouer à un Neo. Donc ça laisse envisager que deux choses. Soit ça pourrait être avec Neo à nouveau, soit ce serait une histoire totalement différente qui ne fait pas référence à Neo et donc qui n'impliquerait pas cette histoire. Ça pourrait être... Il y a plein de rumeurs sur Internet qui parlent d'une possibilité que ce soit peut-être les jeunes années de
Morpheus.
De Morpheus, ouais. Avec la sortie de Trinity de la
Matrice.
De la Matrice, ou sa capture du Nabucadnézar. Voilà. Ouais. Donc, toutes ces idées, il y a du bon et du mauvais. Là, ça va soulever débat au sein de tous ceux qui aiment cet univers. Mais voilà, ça peut être annonciateur de quelque chose de très bien, comme ça peut être une parfaite grosse bouse annoncée. Mais les débats sont lancés.
On va juste préciser que tu aimes bien Matrix, n'est-ce pas, Metal Neo ?
Je sais pas, a priori.
À première vue. Au moins le premier film.
Je peux juste aimer le mot nouveau, je sais pas moi.
La Neo Geo.
Non, c'est vrai. Si je dois être totalement honnête, j'aime beaucoup Matrix. J'aime la saga dans son intégralité, mais sans non plus défendre à fond les derniers films. Le premier est pour moi un film culte, le deuxième est acceptable, le troisième commence un petit peu à faire du mal quand même, il est un peu difficile. Voilà, bon, il conclut l'histoire, on fait passer la pilule, ok. Voilà, je suis beaucoup plus fan du concept de base et du premier que de la saga en entier. C'est juste que voilà, l'univers me plaît, le personnage me plaisait beaucoup, et voilà. Je suis intéressé par quelque chose qui se passerait dans cet univers à nouveau. Petite précision aussi, les frères Wachowski ne sont pas du tout pour le moment mentionnés.
Les sœurs.
Ils ne font peut-être
les
pas
sœurs.
Partie.
Faut dire
les sœurs, oui, pardon. Ouais, hein, les Wachowski.
Les
quels qu'ils soient. ne sont pas...
Dire les sœurs maintenant.
Oui, bah, j'ai dit les Wachowski, je ne suis pas obligé de dire les sœurs.
Je le dis parce que c'est pas... Effectivement, oui. on peut faire... Un peu de...
Donc voilà, on ne sait pas s'ils feront ou s'ils font partie du projet. Mais en tout cas voilà, comme je disais, moi retoucher cette franchise, si c'est bien fait, si c'est pas juste faire une suite pour faire une suite, et si c'est amené avec les bons éléments, ça peut être intéressant comme ça peut être très mauvais.
Donc juste pour resituer, c'est pas forcément un reboot, ça peut être un préquel.
Pour le moment, voilà, j'ai dit reboot parce que c'est ce qui se dit partout sur la toile, mais rien n'a été officiellement annoncé si c'était un reboot ou un préquel ou une suite ou quoi que ce soit. C'est juste une nouvelle histoire ou un nouveau film ou peut-être même saga a été commandé et est en cours côté Warner.
D'accord.
Ouais.
Bon, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'un reboot, ce serait pas forcément...
Un reboot, ce serait horrible. Moi, ça ternirait l'image pour moi, surtout si peu de temps Je veux dire, on est à quoi une...
Oula, si peu de temps, tu sais, depuis les Spider-Man.
Oui, mais
la notion de reboot et de temps.
Mais oui, mais pour moi, tu m'aurais demandé. Oui, mais tu aurais pu me demander à cette époque-là des reboots Spider-Man. Je t'aurais dit que c'était une mauvaise chose à faire.
Ah, oui.
C'est trop tôt.
Ah
quoi.
Oui, c'est trop tôt.
On est vraiment trop tôt, tout comme les Batman. Des fois, c'est trop tôt de redémarrer certaines licences quand ton audience n'a pas eu le temps de la digérer et d'être prête pour une nouvelle tentative. Et là, c'est clairement le cas pour un Matrix. Soit on veut retoucher la licence parce que l'univers était assez vaste pour pouvoir raconter autre chose. Mais si c'est juste recommencer à zéro et ressortir le carnet de chèques pour grossir le carnet de chèques, alors là, moi, je suis pas dedans. Si jamais ils annoncent un reboot, j'irai même pas.
Non.
Reboot. Ouais, je ne te crois
non,
pas.
Non,
reboot slash.
Je le dis maintenant sur la toile.
Sur l'honneur,
je n'irai pas. J'ai pas dit je le regarderai pas. J'ai dit je n'irai pas. Je ne dépenserai pas d'argent.
Je ne paierai pas pour ça.
Je ne paierai pas pour ça. Maintenant, c'est pas un reboot, c'est un préquel, un machin ou quoi. Là, je suis intéressé.
Ok. Moi, non, je suis pas intéressé. Ça fait partie des monuments. C'est un monument. On touche pas.
On touche pas.
On touche pas au monument.
Je comprends.
On touche pas, on fait pas des tags, on rajoute pas du plâtre ou du ciment pour faire une nouvelle statue. Non, Matrix est un monument. Un monument qui a déjà été complété avec les Animatrix.
Oui.
C'était en plein
dedans, ça a pas été fait longtemps après.
Oui, bien sûr.
C'était en cours entre le 2 et le 3, je crois. Hein.
Entre le 2 et le 3.
Et même le jeu vidéo, il y a même eu un jeu vidéo qui était canon. Hein.
Path of Neo et.
Non, Path of Neo, non, mais non. Celui d'avant, celui où tu jouais Niobe
et Ghost.
L'autre gars, ouais.
Ghost.
Celui-là, il était canon en plus. Il se passait entre les films et entre Animatrix.
Inter the Matrix, je crois.
Possible, ouais, bon.
Donc, ouais, non, moi je m'y refuse.
Okay.
Je veux pas qu'on y touche. J'ai mis beaucoup de temps à accepter Matrix dans son intégralité, c'est-à-dire les épisodes 1, 2 et 3.
Et 3, ouais.
Comme une grande saga, parce que pour être honnête, j'avais pas compris à l'époque. Et je pense que même aujourd'hui, si je rencontre quelqu'un qui est fan de Matrix. Et qui a développé sa propre théorie sur l'ensemble des trois films, il est tout à fait capable de renverser la mienne. Parce que moi, je pense que Matrix, on a chacun son interprétation des trois films. On peut se créer sa propre mythologie, sa propre histoire à soi. Et c'est ça que j'adore avec ces films, c'est que l'histoire de Matrix nous appartient en quelque sorte. Quoi. Les Wachowski nous ont laissé une flopée d'informations, d'interprétations possibles. Ils ont dit, démerdez-vous avec ça, faites ce que vous voulez. On peut penser tout et rien de la fin. Quoi. On peut tout imaginer.
Je vois
et
comment
c'est
tu
ça
peux
que
envisager
j'adore.
Ça.
Donc, l'idée d'un reboot, remake, ça me répugne.
Ça viendrait peut-être ternir à cette façon, cette philosophie de se dire, avec ces trois films, on peut quand même en penser ce qu'on veut, et peut-être qu'avec ce reboot, enfin pas ce reboot, mais cette suite ou préquel, ça viendrait casser ça. Et
absolument.
Ouais.
Et le simple fait que les Wachowski... Parce que Matrix est ce qu'il est grâce aux Wachowski.
Ah, ça, oui. Ça,
si en plus, les Wachowski
ils font
ne
pas
font
partie,
même pas partie
ouais,
de l'équation dès le départ, alors là, mais c'est fou.
C'est
mort.
C'est vrai.
C'est fini. Parce que ça fait partie des rares réalisateurs américains qui comprennent vraiment la culture japonaise. Parce que Matrix baigne à fond dans la culture japonaise, cyberpunk
et tout
ce qui est sorti de là, manga. Et les Wachowski l'ont bouffé, digéré, mais
c'est leur projet,
est sorti,
c'est leur bébé,
c'est quelque chose de vraiment bien, quoi.
Ouais.
Quelque chose de respectueux de la culture japonaise. Et voilà, s'ils sont pas là, c'est pas la peine. C'est même pas la peine pour moi.
Moi, je mettrais un bémol. Déjà, je reviendrai sur le Matrix. C'est un monument. Alors, le premier pour moi, c'était une révolution technique, incontestablement. C'était un bon film, un très bon film. Je le mettrais pas dans mes films cultes personnellement, mais bon, c'est purement subjectif. Hein. Et les 2 et 3 font que l'ensemble de l'œuvre, selon moi en tout cas, n'est pas vraiment monumental, pour reprendre ton terme.
C'est pas monumental, ouais.
Voilà. Bon, encore une fois, c'est subjectif, et je reconnais plein de qualités, notamment au premier film.
Ah
et
oui,
et
ouais.
Même sur le plan technique, je maintiens que c'était une révolution. Les systèmes des appareils photo tout autour.
Bullet time,
c'était révolutionnaire.
Ah oui, ça
rendait super bien et ça a été repris on ne sait combien de fois,
ah oui.
Voire amélioré évidemment, mais oui. En tout cas c'était...
pour l'époque, bien. Oui, c'était... Puis, pour l'époque, moi ce que j'aimais bien aussi, c'était pas révolutionnaire, ou sûrement d'autres l'ont fait, mais c'était la première fois aussi où... l'une des premières fois où les plans étaient vraiment réfléchis et comme... comme dans un storyboard, mais de façon comics. C'est-à-dire que si on voit les storyboards et si on voit les illustrations qu'ont fait les sœurs Wachowski avant de faire ce film, il y a plein de parallèles où, plan par plan, ils ont réussi à filmer exactement comme ils avaient storyboardé leur histoire. Ouais. Donc ça faisait vraiment comme un bouquin ou une bande dessinée à l'image. Et ça, ça aussi, c'était d'un point de vue technique et de réalisation. Ils ont fait le film comme ils l'avaient vraiment en tête.
Dans leur tête, ouais.
Et
un peu comme Zack Snyder.
Ouais. Alors on peut revenir là-dessus aussi.
On n'a plus le temps.
On n'a plus le temps. Là, il nous faudrait 4 heures pour déverser toute.
Par contre, moi, je suis pas fermé à la possibilité que ce soit repris par quelqu'un d'autre que les Wachowski.
Voilà. Moi, pour le moment, je retrouve pas le nom. Je sais pas, mais je sais que la personne en charge de l'écriture est quand même une personne assez respectable qui a fait du bon travail avant.
Ouais.
J'essaierai de le retrouver pour vous le communiquer. Donc voilà, voyons ce qui peut-être sortir. Peut-être que si cette personne est elle-même assez respectueuse et fan de l'univers Matrix, elle peut faire quelque chose de bien.
Alors le scénariste, c'est Zach Penn.
C'est ça,
Zach Penn. Qui a été engagé sur plusieurs projets auparavant, dont X-Men 2.
Ouais. Qui n'est pas le plus mauvais des X-Men.
Non. Par contre, il a bossé sur l'affrontement final aussi.
Affrontement final, c'est lequel ça ?
The Last Stand, c'est le troisième.
C'est le troisième.
Et il a bossé aussi sur le script du film Elektra. Le spin-off de Daredevil.
Oui, bon,
et il a fait.
Faut manger aussi. Hein.
Il
y a des gens, il faut qu'ils mangent. Hein.
Et il a bossé sur Avengers aussi.
Voilà, bah c'est bien.
Et donc voilà. Et en fait, les premières rumeurs qui parlent donc d'une éventuelle jeunesse de Morpheus, c'est parce que l'acteur afro-américain Michael B. Jordan aurait été apparemment approché par la Warner.
D'accord.
Donc oui, voilà, bon. Donc bon.
Ça laisse présager. Bon, enfin, je pense qu'on va pas le voir avant un bon petit moment. Hein. De toute façon, si ça en est qu'à l'écriture, on a encore le temps. Mais bon, voilà. Je pense que ça peut créer le débat et je pense que ce serait intéressant aussi d'avoir vos opinions.
Oui, c'est vrai ça.
Savoir
dites-nous
si ça vous intéresse d'avoir à nouveau du Matrix dans nos horizons cinématographiques ou pas.
Donc voilà. Chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire, nous laisser un petit commentaire, prenez la parole, emparez-vous du forum, parce qu'après tout, à la base, c'est un endroit où on parle. Bon, et bien écoutez, ce débat marque la fin de notre 7e épisode.
7 déjà.
Il a mis du temps à sortir, nous en sommes désolés, j'en suis le principal responsable parce que j'ai été malade comme un chien pendant une semaine.
Ces excuses ne nous intéressent pas.
Absolument, mais je tenais tout de même à les présenter à nos chers auditeurs.
C'était ton anniversaire aussi.
C'était aussi mon anniversaire.
Encore une fois, une mauvaise excuse.
Une excuse de...
bidon.
Bidon, absolument bidon. Donc, nous vous remercions pour de nous suivre. N'hésitez pas donc à laisser des commentaires, à nous laisser des petites étoiles sur iTunes, puisque nous y sommes. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, on espère la semaine prochaine. Sinon d'ici un petit peu plus de temps. Et puis du coup, en attendant, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt.
À bientôt.
À bientôt. Salut.
Allez, au revoir.